Vous écoutez
RMC.
Ouais, maintenant, c'est exactement ça.
Je suis d'accord avec toi, mais justement, alors, on reviendra au Maroc un peu plus tard. Je pense qu'on fera une belle page sur la performance des Marocains. Après, il y a un indicateur qui montre aussi à quel point les Marocains sont arrivés frileux dans cette rencontre. C'est la manière dont s'est positionné Hakimi, lui qui on le connaît très offensif du côté du Paris Saint-Germain, même avec le Maroc. Quand tu regardes un petit peu l'apport offensif qu'il a eu, ça veut aussi dire que le rapport de force des Français, il est gagné avant le match. Et je mettais un petit peu tout à l'heure en avant le fait que j'ai trouvé les sélections africaines trop respectueuses des grosses nations européennes et sud-américaines. Ils m'ont quand même montré malgré tout, Walid, on a eu le débat hier justement, où est-ce qu'on disait que le Maroc était peut-être la seule nation qui était en mesure de regarder dans les yeux, je dis bien dans les yeux, les grosses nations par rapport à leur statut, par rapport au parcours qu'ils avaient fait en 2022, par rapport à leur parcours à la CAN. Et finalement, je me rends compte que quand même, il y a encore ce sentiment un petit peu d'infériorité qui me fait dire que certes, l'équipe de France a rendu ce match facile, certes, l'équipe de France a été dominante et mérite cette victoire par rapport à leur performance, mais malgré tout, je reste sur ma faim par rapport à la mentalité affichée par les Marocains dès le début du match.
Moi, je pense que la France rapetissit toutes les équipes, Maxime, et que athlétiquement, cette équipe-là, athlétiquement, dans le man-to-man, dans le 1 contre 1, c'est trop fort. En fait, les match-up, je pense qu'il n'y a que l'Angleterre qui peut peut-être rivaliser sur cette compétition, sur le côté athlétique. Mais quand tu regardes le double pivot marocain, ce qu'ils ont mangé par rapport à Koné et Rabiot, quand tu vois Upamecano, Saliba, quand tu vois Mbappé sur la charnière centrale, en fait, il y a un décalage qui est beaucoup trop important. Quand tu vois l'entrée de Barcola athlétiquement, les changements de rythme. Il y a un moment, tu te prends Barcola, tu te dis, mais attends, il y a déjà 2-0. Comment on va faire ?
Non, bien sûr.
On doit attaquer, tu vas te prendre dans ton dos, Bradley Barcola.
Après, Walid, tu le disais très intelligemment, c'est vrai qu'à part l'Angleterre individuellement, je pense qu'il n'y a peut-être aucune équipe qui peut rivaliser avec la France. Je dis bien poste pour poste. On a eu le débat hier, Walid,
l'Espagne,
individuellement parlant, poste par poste, à part l'Angleterre, tu as peut-être l'Espagne, mais tu as très peu de nations malgré tout. On a quasiment les meilleurs joueurs à chaque poste, les meilleurs joueurs mondiaux. Hier, on a eu le débat, Walid, par rapport à le 11 combiné, qui on mettrait entre l'équipe de France et les Marocains.
On avait mis 4 ou 5 Marocains.
On avait mis 4 ou 5 Marocains, dont Flo Gotro qui nous avait mis la paire El Ainaoui Boadi.
Moi, j'étais pas d'accord.
La réalité, c'est que moi, j'étais pas d'accord non plus.
On avait mis Boudou, les deux latéraux, et Flo avait rajouté Ayoub Boadi et
El Ainaoui. Aujourd'hui, non, mais parce qu'en fait, tu rebondis par rapport à ce que dit Walid. C'est individuellement, tu compares un mec, Manu Koné, Rabiot, qui sont titulaires dans des grands clubs européens, avec Boadi qui a été très très bon contre le Brésil, qui a montré énormément de potentiel depuis le début de cette saison, par exemple avec la Liga, avec le LOSC. Mais on est sur un joueur de rotation au LOSC qui a 19 ans. Tu peux pas comparer Boadi avec Rabiot, Koné.
Je l'ai dit moi hier soir dans Génération After, j'ai dit qu'il n'y a aucun Marocain qui serait, je pense moi, sélectionné avec l'équipe de France. Je pense vraiment, et je pense que tous les joueurs. Non, quand j'ai aucun Marocain, c'est au milieu de terrain. Et je pense que tous les joueurs au milieu de terrain français seraient titulaires dans cette équipe marocaine. On m'a pris pour un fou, mais aujourd'hui sur le match, quand je dis que El Ainaoui il est remplaçant à la Roma parce que Manu Koné aujourd'hui n'a rien à faire à la Roma, parce que depuis qu'il est arrivé avec l'équipe de France, il fait la carrière que Camavinga devrait faire en équipe de France, parce qu'il a une personnalité de dingue avec le ballon, les gens ils me prennent pour des fous. On a encore vu Manu Koné, ce qu'il a fait dans le contre-pressing, le nombre de fois où il initie les récupérations de balles, c'est monstrueux. Et El Ainaoui, ils ont été chercher une canette à l'épicerie de Manu Koné et d'Adrien Rabiot pendant toute la rencontre. Ça a été édifiant aujourd'hui.
Manu Koné, il a été impérial, il a été bon. Et en plus de ça, il a gagné énormément de duels. On parlait justement du manque de Tchouaméni par rapport à l'utilisation de la surface, entre guillemets, sans ballon, parce que c'était très important. On connaît un petit peu le rapport entre Rabiot et Tchouaméni. Mais Koné, il a su faire le taf avec le ballon et sans ballon. Il a été grandiose. Pour moi, c'est l'homme du match.
On fera une évaluation avec Walid.
Je suis d'accord.
Avec toi, Max. Le Bougarneau sera avec nous dans un instant. Je crois que ça va faire plaisir à Walid également. Il vient d'arriver là chez Eddy au Café Luce. Il y a du monde, il y a même Mike qui est là aussi. Tu connais bien Mike aussi,
bien
mais là c'est la Dream Team ce soir.
Il y a toute l'équipe,
il y a Eddy, il y a tout le monde,
là
c'est la famille.
Il manque que toi, Walid,
qui est réunie.
C'est vrai.
Non, il est là, Walid aussi. Walid fait une excellente première demi-heure.
J'ai le sentiment
que Walid, c'est pas simple, il est seul à Paris en studio la nuit, il y a plus personne dans le bâtiment.
J'ai le sentiment,
on a juste mis de la lumière, il est tout seul.
Le décalage horaire ne n'atteint pas Walid.
Non mais Nico, j'ai l'âme de New York dans le studio.
Alors écoutons Kylian Mbappé. La question lui a été posée: est-ce la meilleure équipe de France avec laquelle il a joué? Écoutez le buzz des Bleus.
C'est pas la plus forte. J'ai été champion du monde et j'ai été vice-champion du monde. Cette équipe, elle est ni champion du monde, ni vice-champion du monde. Donc à l'heure actuelle, c'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel, celle avec laquelle on peut se projeter le plus facilement, où il y a beaucoup de qualités. Elle te permet de rêver, bien sûr, mais la plus forte, j'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent. Et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte.
Il ouvre un bon débat qu'on va mener dans un instant. D'abord, on va accueillir Flo Germain, qui était à Boston, bien sûr, au GL Stadium, pour ce match aux commentaires avec Jean-Louis Tour. Salut Flo.
Salut les amis, salut à tous.
Fais-nous un petit round-up là, de la conférence de presse. Qu'est-ce que tu retiens quoi, des réactions des Bleus après cette qualif?
Bon, c'était intéressant. D'abord, je vais citer Mohamed Ouabi, le sélectionneur du Maroc, qui a répété deux fois que, vous l'avez peut-être dit à l'antenne, je ne sais pas, c'est que la France n'a jamais eu autant de talent. Il a dit, surtout avec une différence, c'est que là, tout le monde court. Et en fait, il a fait ça, il a dit ça avec des yeux écarquillés et très clairement, c'était un aveu d'impuissance en disant que, et d'ailleurs, il l'a dit, hein, qu'ils ont un peu essayé. Bon, ils sont restés très prudents, les Marocains, mais qu'ils ont très vite compris que c'était injouable. Et c'est vrai que j'ai l'impression de voir les mêmes conférences de presse quand il y a les sélectionneurs adverses qui débarquent en conférence de presse et qui reconnaissent que les Bleus, c'est trop fort.
Et donc, c'est intéressant, Flo, ce que tu dis, enfin ce que dit Mohamed Ouabi, parce qu'on parlera bien évidemment des quatre offensifs, mais le travail sur la première mi-temps de Doué et de Dembélé pour fermer dans l'axe, je trouve que ça a été une clé tactique pour annihiler les relances du Maroc. Je les ai trouvés très très rigoureux défensivement, Dembélé et Doué, pour fermer les angles de passe et pour essayer de gratter notamment sur les situations que l'équipe de France a eues en première mi-temps. Et ça passe aussi par une prise de conscience que ok, on est quatre offensifs, mais un peu l'âme de Luis Enrique du Paris Saint-Germain, on va devoir tous défendre pour avancer dans cette compétition.
Ouais. Et d'ailleurs, ouais, du coup, Didier Deschamps en a parlé après, parce que je l'ai relancé sur la petite sortie de Ouabi. Il a dit, il a pris l'exemple de Kylian Mbappé. Je ne sais pas pourquoi il a pris ce petit qualificatif de dictateur là, parce qu'il a sorti cette petite phrase en conf en disant ouais, Mbappé, vous en faites des caisses, le dictateur, etc. Bon, bref, je crois que des fois dans l'intimité du vestiaire, il le chambre avec ça. Mais bref, Deschamps a utilisé ce mot-là, mais tout simplement pour dire qu'il est au service du collectif Mbappé, et c'est sûrement la plus grande fierté ou l'une des plus grandes fiertés de Didier Deschamps qui l'a dit. Il a beaucoup insisté sur le groupe qu'il a construit, et il a voulu, comme il l'a fait dans l'après-match, saluer l'entrée de Warren Zaïre-Emery qui avait du feu dans les jambes, très clairement ça s'est senti. Et lui il dit que c'est la force de ce groupe là de voir des joueurs qui ont zéro minute et qui célèbrent un but avec un grand sourire ou une victoire avec un grand sourire. Il n'y a pas de bouderie, et si éventuellement il y en a, on le met derrière avec au service de l'équipe avec une certaine hargne sur le terrain, et c'était le cas de Zaïre-Emery. Et puis après, Deschamps, c'est
il
pas le genre
une bonne
à se lâcher.
Zaïre-Emery, hein.
Oui, c'est pour ça que je dis ça.
Ouais,
Deschamps, c'est pas le genre à se lâcher, vous le savez mieux que tout le monde. Simplement, dernière phrase de conférence de presse, il parle là-dessus, il dit je reconnais, on est en mission. On est en mission pour tous ceux qui aiment cette équipe de France, pour les enfants, les grands-parents, les plus âgés, les moins âgés, mais ceux qui aiment ce maillot bleu, on est en mission pour eux. Et c'est vrai que c'est une phrase au final assez rare, hein, honnêtement, chez Didier Deschamps, qui voilà, il est plutôt dans le match par match et dans la prudence. Là, très clairement, bon, le 14 juillet Dallas, c'est une belle date, comme il l'a dit, mais il a ce rêve en lui d'avoir la troisième étoile avec en plus une équipe offensive qui ferait taire tous les débats sur son
c'est
style d'entraîneur, donc ce serait énorme. Et je lui ai posé la question là-dessus, je lui ai dit est-ce que vous rêvez, Didier, de quitter les Bleus par la grande porte avec en plus la marque d'un coach offensif? Il n'a pas répondu honnêtement, mais il avait tellement le sourire que j'ai compris que ça voulait dire oui.
C'est clairement le cas.
Donc c'est aussi ce qui l'anime. Et ça m'a marqué lors de la conférence de presse.
Et on le voit là, il y a la postérité pour lui, c'est la dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je pense que c'est dur à dire, mais qu'il prend encore plus de plaisir là qu'en 2018. Parce que tu as raison, il est en train de fermer quelques bouches, hein, dont on fait partie aussi. Et c'était justifié
moi,
à l'époque, quand on disait
moi,
qu'on en avait marre de ce style de jeu rigide, verrouillé, prudent, frileux. Là, il a la matière et il la met à exécution. Tiens, Yannick, tu veux dire quelque chose? Yannick, c'est le supporter de l'équipe de France qui est avec nous depuis 2h du matin.
Non, je voulais plus me projeter déjà sur la demi-finale. Moi, j'ai la chance d'être à Dallas ce match-là. Aujourd'hui, c'était ma finale parce que je voulais, si la France se qualifie, j'ai mes billets de supporter pour aller à Dallas. Donc,
t'avais déjà réservé avant que la France se qualifie?
Je suis au max. Non, en fait, c'est le système de supporter où tu demandes, tu montres quel match tu voudrais avoir des billets.
D'accord.
Et je me suis placé sur tous les matchs de l'équipe de France, sauf la finale.
Malin, quoi.
en fonction de la qualification. Et là, du coup, c'était mon. Voilà, là, ce sera mon prime de supporter. Je vais jamais vivre ça. Mais je voulais. Il y a une chose qu'il faut penser aussi, c'est qu'il n'y a pas que les supporters français, les familles, les enfants de France ou même des expatriés. C'est je vois mes amis, tout le monde voit des textos. Dis-moi comment je peux être supporter de l'équipe de France, parce que vous faites rêver en fait. Et il y a beaucoup de gens, des Américains, des amateurs de foot et des gens qui s'intéressent juste au foot par la Coupe du Monde. Ça les fait vibrer. Et dans les stades, j'espère que ça va jouer. J'espère que derrière, tous les stades vont être remplis de Français, mais aussi de gens plus neutres qui vont être non, derrière cette équipe.
Tu sens que l'engouement pour cette équipe de France, elle grossit.
Voilà. Et que ce soit des Brésiliens qui sont éliminés, ils se rejettent vers pas par défaut, mais par amitié, viennent vers nous. Mais
pas les Argentins.
Voilà. Normal, parce qu'ils sont encore en course.
J'ai bien dit.
Non, mais là, les gars, on a pour la première fois depuis que nous. On est pas si vieux, on suit l'équipe de France en Coupe du Monde. L'équipe de France la plus sexy, la plus fun, la plus bankable également. C'est-à-dire que là, tu vends des maillots dans tous les sens, sur tout le continent. On voit des Américains, des Asiatiques avec le maillot de l'équipe de France. Pas uniquement parce qu'il est beau, ce maillot bleu, ce maillot vert là. Parce que c'est l'équipe la plus sexy, voilà. C'est merveilleux.
Moi, je vais vous dire un truc, les gars.
Et Flo,
moi, je vais vous dire un truc. Moi, c'est le Brésil 2002 là. Les quatre attaquants avec Rivaldo, avec Ronaldinho, avec Ronaldo. Moi je vois ces quatre attaquants avec Ousmane Dembélé, Doué ou Barcola et Olise Mbappé. Je vois un truc effrayant en fait, effrayant et un esthétisme incroyable. De toute façon, on l'a vu à New York. Il y a pas un maillot dispo dans les malls. C'est des superstars les mecs, et surtout c'est des superstars, mais on n'a pas le côté star. Péjoratif du Paris Saint-Germain avec Messi, avec Neymar, Goulard, Mbappé. On a une équipe qui est compétitive sur le terrain, qui est rafraîchissante, qui est attachante. Et moi, je vais te le dire, Nico, moi j'ai 32 ans. Alors bien évidemment, comme Mbappé l'a expliqué, il va falloir que cette équipe-là gagne pour rentrer dans les meilleures équipes all-time. Mais elle a le potentiel pour être la plus grande équipe de tous les temps en équipe de France et même mondialement. S'ils vont gagner...
Quand tu regardes les âges des gamins, bien sûr. Non,
Walid,
bien sûr,
mais
la raison. Non,
t'as 35 ans d'histoire, 33 ans d'histoire.
Mais non, en tout cas moi je le dis aujourd'hui, j'ai pas connu le carré magique, mais là c'est le carré d'as. Là on a le carré d'as, là les quatre devant avec trois joueurs qui vont être top 10 ballon d'or dans 2 mois, dans 3 mois. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'on a incroyable. En magasin Nico, et t'impactes une génération. Moi j'ai pas eu la chance de connaître Platini, Gires, Luis Fernandez, etc. mais je te dis qu'aujourd'hui à notre échelle, ce qui est en train de se passer pour les jeunes, parler avec des jeunes autour de vous, c'est iconique ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de rattacher ce football français, alors qu'en 2024 on éteignait la télé, et quoi qu'il arrive c'est déjà une grande victoire.
C'est pas si vieux, je suis d'accord avec toi.
Si je peux me permettre, ça va même au-delà du football. Cette équipe, elle dégage quelque chose, même dans le style, dans la personnalité de ses joueurs et même de ses stars. Là. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'elle est aimée, parce que toi, t'insistes beaucoup, effectivement, et t'as raison sur la force offensive, le fait qu'on se régale quand on les voit. Mais je sais pas, il y a un flow là qui se dégage, FLOW évidemment, hein,
un flow à l'extérieur du terrain, tu parles.
De chaque sortie, à chaque fois qu'ils sont dans le bus, dans l'avion, les Américains, ils sont fans de Mbappé, ils sont fans d'Olise. Il y a des stars qui.
C'est l'équipe qui est dans l'air du temps.
C'est la seule équipe qui est dans l'air du temps.
C'est une équipe qui est dans l'air du temps et surtout qui vit bien ensemble. Et on a fait donc l'interview de Youri Djorkaeff qui comparait cette équipe de 2026 à l'équipe de France 98. Et là, Flo avait très justement rebondit. Moi, elle me fait plus penser finalement à l'équipe de l'Euro 2000, c'est-à-dire avec un Thierry Henry qui arrivait vraiment à maturité, David Trezeguet, Nicolas Anelka, Sylvain Wiltord. Je trouve des similitudes entre cette équipe 2026 et cette équipe de l'Euro 2000.
Mais moi, je vais même te dire, Maxime, je vais te dire honnêtement, moi, j'en ai rien à cirer de voir l'équipe de France gagner la Coupe du Monde ou non aujourd'hui. J'ai pris mon kiff.
Walid, quand même.
Mais attendez, là, je te parle pas du supporter, je parle de l'observateur. Aujourd'hui, le kiff que j'ai pris depuis le début de la compétition avec une équipe qui offensivement est aussi forte ou défensivement est aussi forte, et même la fraîcheur, l'histoire qu'il y a eu autour de cette équipe de France, j'en ai déjà pour mon argent, Nico.
Et moi,
je suis bien évidemment, c'est la cerise sur le ghetto d'aller chercher cette victoire. Oui, bien sûr, c'est un jeu de mots. Non, mais ça, j'ai aucun problème là-dessus, Nico. Mais je vous dis juste que déjà, on a souvent dit, on a banalisé une victoire en 2018 parce qu'elle était moche, parce qu'elle était froide. pourquoi on devrait se satisfaire uniquement d'une victoire en Coupe du Monde pour valoriser ce que fait l'équipe de France? Et je te le dis,
ouais, parce que c'est comme ça, on se rappelle que des vainqueurs, Walid. Voilà. Le mec qui termine 5 ou 6ème au cross de l'école à 10 ans et personne ne s'en rappelle, Walid. C'est que la médaille qui compte.
Toi, le spécialiste, te rappellera, mais dans 20 ans, l'opinion publique, la France s'en souviendra pas forcément.
Tu parles avec des gens
de loin.
Tu parles avec des gens en ce moment qui connaissent pas le foot ou qui regardent pas le foot. C'est quoi les messages sur WhatsApp? T'as vu la France? Oh, comment c'est fort la France! T'as vu la France?
Oui, mais
parce
que c'est... Oui, mais si tu gagnes pas ou si tu perds pas en finale de manière héroïque,
et puis c'est la culture.
Il ne restera que un petit plaisir.
C'est la culture de l'instant. C'est la culture de l'instant, évidemment. Si la France ne gagne pas, cette équipe, elle sera oubliée dans 2 mois, Walid. Par contre, moi, je te pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas ce petit regret? Est-ce qu'il n'y a pas ce petit regret aujourd'hui de se dire que la France est arrivée en demi-finale sans frapper une nation majeure, un Brésil, une Allemagne, des Pays-Bas?
Bah non,
c'est une question. Je me pose une question. Je vous pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas juste ce petit questionnement en se disant, j'aurais préféré peut-être que la France tape le Portugal?
On devait jouer l'Allemagne. On devait jouer l'Allemagne. On a joué pas
ça ou pas? Flo, avant de libérer Flo.
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, hein, tout simplement. Hein, c'est qu'on est sur une équipe de France qui, je pense, est entrée même dans la tête de ses adversaires, à tel point que. On a des équipes adverses et des coachs adverses qui ont tellement peur de ces bleus-là, que, comme vous venez de le raconter, par rapport à ce qu'elle dégage, par rapport à sa force collective, qu'on est toujours en train d'essayer de trouver une parade. Et du coup, on a des adversaires, c'était le cas du Maroc aujourd'hui, au final qui ne jouent pas véritablement leur football et qui s'inclinent
souvent, c'est ça un petit peu mon regret,
en début de match, dans l'avant-match ou même pendant le début de rencontre. Donc,